Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. Cet été marque le 70e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec le largage des bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki en août 1945. Bombes sur Hiroshima le 6 août, sur Nagasaki le 9, la capitulation du Japon le 2 septembre 1945, met un terme officiel à un épisode particulièrement douloureux et tragique du siècle passé. Souvent, comparaison est faite entre le Japon et l'Allemagne pour marquer les différences dans l'analyse du passé et la façon dont chacun gère ses pages de l'histoire. La construction de l'Union européenne est souvent mise en avant pour illustrer la capacité des nations à faire entrer en résilience leurs relations. Regard sur l'Asie, ou alors que les relations entre la Chine et la Corée du Sud sont au beau fixe. Pékin et Séoul entretiennent des rapports tendus avec Tokyo. Entre contentieux sur des îles disputées et interprétation de l'occupation japonaise avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, un passé qui ne passe pas, Washington allant même jusqu'à qualifier la dispute entre ses deux principaux alliés militaires en Asie, Corée du Sud et Japon, de handicap stratégique. Nos invités par téléphone, Valérie Niquet, maître de recherche et responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonjour.
Bonjour.
Et Céline Pajon, spécialiste du Japon, chercheur au Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales et stratégiques, et co-auteur avec Alice Ekman de Nationalisme en Chine et au Japon, implication pour la relation bilatérale, aux publications de l'IFRI. Bonjour.
Bonjour.
Les institutions politiques de l'Union européenne sont donc souvent mises en avant comme modèle de résilience des relations entre les pays et sont vues en Asie avec une certaine admiration quant à la capacité des pays à ne pas s'en tenir uniquement aux relations commerciales et donc au business, et d'être capable de forger un socle servant de base à une construction permettant l'échange d'idées, une vision commune, des objectifs partagés. Valérie Niquet, en mars dernier, les ministres des Affaires étrangères du Japon, de Chine et de Corée du Sud se sont réunis dans le but de calmer les rivalités territoriales et les disputes diplomatiques liées à l'occupation japonaise avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. La tenue d'un sommet entre les dirigeants des trois pays a été évoquée sans qu'une date n'ait été trouvée. La Corée du Sud et le Japon célèbrent ces jours-ci le cinquantenaire de leurs relations diplomatiques. Où en est l'Asie avec l'idée d'une réconciliation? Est-ce que finalement il y a volonté politique, Valérie Niquet?
Alors évidemment, alors même si la description de l'Union européenne est peut-être un peu idéaliste, c'est vrai que sur la question historique entre la France et l'Allemagne, les choses ont été réglées très tôt. Et la situation en Asie, évidemment, est totalement différente pour toute une série de raisons. Le seul point commun, c'est que, évidemment, le Japon était allié de l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale et que son comportement dans son ancienne colonie en Corée du Sud et en Chine et ailleurs en Asie, d'ailleurs, ont laissé des traces particulièrement cruelles dans la région qui ne sont pas effacées. Mais la résolution des tensions entre ces trois pays est loin de pouvoir être achevée pour une raison majeure, et l'assimilation entre la situation asiatique et la situation européenne est difficile. Pour une raison majeure, c'est que si la France et l'Allemagne ont pu si facilement se rapprocher relativement peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale, et à une époque où d'ailleurs l'Allemagne n'avait pas particulièrement effectué son devoir de mémoire sur son passé nazi pendant la guerre, la situation stratégique en Asie est très différente, puisque le Japon et la Chine ne font pas partie du même camp, entre guillemets, ce qui n'était évidemment pas le cas de la France et de l'Allemagne de l'Ouest au moment du rapprochement. Par ailleurs, il y a des motivations, mais ça, Céline Pajon pourra en parler plus longuement, qui sont fondées évidemment sur le recours à des thématiques extrêmement nationalistes. Alors au Japon, évidemment, on en parle, mais de mon point de vue, d'une manière moins accentuée, mais vraiment très fermement en Chine, où ces thématiques sont devenues le quasi seul facteur de légitimation d'un parti communiste toujours au pouvoir, qui souhaite rester au pouvoir, mais qui sent bien que sa légitimité est extrêmement fragile. Et en Corée du Sud, on a un régime qui s'est démocratisé relativement récemment dans les années 1990, dont la présidente actuelle doit aussi faire oublier le fait que son père, l'ancien dictateur Park, était lui-même, faisait partie de l'armée impériale japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale, et une relation extrêmement ambiguë entre la Corée Corée du Sud et le Japon, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle qu'on peut avoir en France avec un pays comme l'Algérie, par exemple, où il y a à la fois un passé commun très fort et en même temps une volonté de la part, au moins en Algérie ou en Corée du Sud, de s'appuyer sur le rappel de ce passé pour là aussi faire oublier peut-être certaines difficultés plus contemporaines. Le Japon, de son côté, est confronté évidemment à des tensions fortes stratégiques, notamment face à la Chine. Avec la Corée du Sud, ça n'est pas le cas, même si on met de côté ce problème des îlots des Tokto. Et évidemment, face à une Chine qui inquiète de plus en plus, le sentiment anti-chinois a tendance à se renforcer au Japon. La volonté de se doter de capacités de défense plus importantes, la volonté aussi de préserver à tout prix, y compris en s'engageant d'une manière plus active, l'alliance avec les États-Unis qui continue d'être considéré par Tokyo comme l'élément essentiel de stabilité stratégique dans la région.
Bon, Valérie Niquet est en train de faire le plan de l'émission, ce qui est formidable. J'en reviens à la question de ces célébrations du 70e anniversaire de la fin de la guerre. Céline Pajon, pour vous poser la question sur cette idée de réconciliation en Asie, volonté politique, où en est le Japon ? On a le sentiment que le Japon a beau s'excuser régulièrement, il souffle un peu le chaud et le froid sur cette question.
En fait, il est vrai qu'il y a des voix dissonantes au Japon concernant la mémoire de la guerre. Et pour ça, je rejoins en fait l'analyse de Valérie Niquet, qui explique qu'effectivement, c'est très difficile de comparer le contexte européen et le contexte asiatique pour ces questions mémorielles. En fait, faut revenir vraiment à l'immédiate après-guerre. En fait, on peut considérer qu'il y a eu un règlement de l'après-guerre en Asie qui a été très complexe et assez désastreux pour la poursuite des événements. Hein, le contexte géopolitique de la guerre froide a vraiment divisé la région en deux camps. Le rôle des États-Unis a été extrêmement important. Il y a eu une occupation longue du Japon. Les États-Unis ont imposé, si on peut dire, un certain récit en fait de la guerre au Japon lors du procès de Tokyo. Si on considère les circonstances dans lesquelles le traité de paix de San Francisco, par exemple, en 1951 a été signé, on peut s'apercevoir que à ce moment-là, ni la Chine populaire ni la Corée n'ont été signataires de ce traité. Au final, les pays asiatiques ont été très peu associés au règlement de la guerre en Asie. Donc il y a eu des scories, il y a eu des choses laissées de côté, ce qui explique le retour de problèmes des différents territoriaux qui n'ont pas été réglés, et également les questions de responsabilité de l'État japonais dans la guerre.
Donc finalement, si je vous comprends bien, Céline Pajon, un règlement qui a en grande partie échappé à la région, aux acteurs principaux de la région.
Oui, je crois à ce moment-là, il n'y avait pas de relation diplomatique entre les États-Unis et la Chine populaire. La Corée était en pleine guerre, donc effectivement, le Japon était dans un état de faiblesse très important, sous domination américaine. L'occupation américaine a mis en place une censure également assez importante pendant les 7 années d'occupation, qui ont un petit peu éludé en fait le débat public concernant la responsabilité du Japon. Et puis, pour revenir plus particulièrement à cette époque-là, dans le contexte de la guerre froide, les autorités américaines ont mis en place ce qu'on appelle le retour en arrière sur leur politique de purge de la droite japonaise, etc. Donc entre 1948 et 1951, ils ont libéré de prison des figures conservatrices très importantes qui avaient joué un rôle important lors de la période de l'avant-guerre, et qui a également brouillé les cartes un petit peu pour ce qui concerne l'interprétation de l'histoire et de la responsabilité du Japon par la suite.
Alors, on va parler bien sûr de la façon dont la population japonaise se positionne finalement par rapport à cette page de l'histoire. Qu'est-ce que l'on sait de la manière dont les célébrations Valérie Niquet vont se dérouler cet été, je pense en particulier au 15 août et au-delà?
Alors, pour le Japon, Céline Pajot en parlera mieux que moi, mais ce que tout le monde attend, évidemment, avec des points d'interrogation sur jusqu'où est-ce qu'il ira, c'est le grand discours de Shinzo Abe à l'occasion de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc qui devrait être prononcé au mois d'août de cette année, et qui est attendu de très près, non seulement par les voisins de Tokyo, pour savoir jusqu'où Shinzo Abe pourra aller voudra aller surtout dans les expression d'excuses, et c'est notamment vrai pour la Corée du Sud. Il y a plusieurs, en fait, les problèmes et chinois et coréens du Sud sont un peu différents. En Corée du Sud, on se focalise beaucoup à nouveau aujourd'hui sur la question des femmes de réconfort qui ont été utilisées par l'armée japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale et même avant. Et évidemment, on attend ce discours aussi avec attention aux États-Unis, même si Abe s'est déjà exprimé lors de sa visite à Washington. On l'a dit tout à l'heure, l'ambition des États-Unis est évidemment d'arriver à une relation plus apaisée, notamment entre ces deux alliés coréens du Sud et japonais. Mais les autres célébrations vont être tout aussi importantes symboliquement et pour marquer les positions de chacun. Et la Chine prépare activement une très très grande parade militaire destinée à bien enfoncer le clou sur l'idée que c'est le Parti communiste chinois qui a remporté la victoire contre le Japon. Et là, on est dans une logique qui, en fait, est beaucoup plus proche de celle qui pouvait être celle de l'URSS face à l'Allemagne pendant toute la durée de son existence, où en permanence, on rappelait le rôle du Parti communiste dans la victoire contre l'ennemi nazi en Europe ou l'ennemi japonais en Asie. Là encore, on est dans un processus d'une volonté de légitimer le Parti communiste en Chine. Donc, il faut maintenir cet ennemi japonais, entre guillemets, vivant. Mais il y aura aussi d'autres célébrations concurrentes, d'ailleurs, à Taïwan. Pékin aurait aimé associer pleinement les vétérans taïwanais à sa parade militaire. Les Taïwanais sont beaucoup plus réticents parce qu'évidemment, ils y voient. On voit bien que le contemporain est très très présent, en fait, dans cette histoire mémorielle en Asie. Et Taïwan accuse évidemment Pékin de vouloir exploiter le passé, ne pas reconnaître le fait qu'en fait, ceux qui ont lutté contre le Japon, c'est la République de Chine pour l'essentiel, beaucoup plus que le Parti communiste. Et donc tout ceci est présent. On en revient au point crucial de ce débat sur la mémoire en Asie, qui est que ça n'est pas tellement la mémoire, même si les faits existent, qui est en jeu. C'est le rapport de force actuel et la manière dont chacun veut se positionner et où en particulier la Chine veut se positionner par rapport à ses voisins.
Alors bien sûr, on évoquera ce rapport de force actuel. On l'a compris, Céline Pajon, beaucoup va dépendre de la façon dont Shinzo Abe s'exprimera sur l'anniversaire des 70 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors que le président chinois a récemment renommé cet anniversaire de la guerre journée de la victoire contre le Japon. Le grand discours donc de Shinzo Abe, on se pose des questions quant à la teneur de sa déclaration. Est-ce que notamment il emploiera le mot agression qui qualifie dans des textes officiels l'action du pays durant le conflit?
Pour l'instant, on a encore des incertitudes sur le vocabulaire qui sera utilisé. En fait, à plusieurs reprises, il a bien expliqué qu'il partageait l'esprit des excuses qui avaient été formulées auparavant, notamment par le Premier ministre Murayama en 1995 et qui, depuis, en fait, forment une espèce de doctrine, un petit peu de socle qui est repris par les premiers ministres successifs au Japon. Donc, il a bien dit qu'il reprenait l'esprit, mais sans doute pas les mots de ses excuses. Donc, c'est encore à voir. En fait, on a peut-être une petite indication ces derniers jours, est paru dans la presse l'information selon laquelle ce discours ne ferait pas l'objet d'une décision du cabinet, mais serait rattaché directement à la personne de Shinzo Abe. Donc, si on en croit ces indications, on peut penser que le mot d'agression, le mot d'excuse ne sera pas prononcé et que ce serait effectivement une espèce de discours un petit peu pomme de discorde avec la Chine et la Corée, mais dans ce cas qui serait rattaché plus directement à la personnalité du Premier ministre Abe et non pas au gouvernement japonais et non pas comme une position officielle du gouvernement japonais. Ça, ce sont vraiment les derniers indices qu'on a, même si ces derniers mois, on voit quand même une volonté d'apaisement très fort dans les relations entre le Japon et la Chine, le Japon et la Corée. parce que effectivement ça va dans l'intérêt du Japon d'entretenir des liens cordiaux avec ses voisins. Il y a des intérêts économiques qui sont extrêmement forts, des intérêts stratégiques également qui sont partagés avec la Corée du Sud, ne serait-ce que vis-à-vis du régime nord-coréen qui constitue une menace pour ces deux acteurs, et également à travers les pressions en fait hein, que le gouvernement subit de la part de son allié américain, comme l'a bien expliqué Valérie.
Alors, on a un peu le sentiment, Valérie Niquet, je me tourne vers vous, que finalement, cette question de la Deuxième Guerre mondiale est quelque chose d'assez présent dans les discours, dans les manifestations politiques. Et tout cela n'empêche pas que des liens se tissent, que disait à l'instant Céline Pajon, des liens commerciaux, des liens stratégiques, tout cela étant indispensable, même si récemment, Washington s'est plaint de voir ses deux principaux alliés dans la région, que sont la Corée et le Japon, continuait de se disputer et qualifiant cette dispute de handicap stratégique.
Oui, bien effectivement, la Corée du Sud et le Japon sont les deux socles de la présence américaine en Asie, et une présence américaine d'autant plus importante que on l'a vu avec le discours sur la stratégie du rééquilibrage ou du pivot. Les États-Unis considèrent aujourd'hui que économiquement, bien entendu, mais beaucoup stratégiquement, c'est en Asie que ça se passe et c'est là qu'ils doivent être présents. Donc, ils voudraient pouvoir compter sans querelles inutiles sur ces deux principaux alliés dans la région que sont la Corée du Sud et le Japon. Ils ont absolument besoin que les relations entre ces deux États s'améliorent pour que les choses fonctionnent d'une manière correcte, et particulièrement en cas de crise éventuelle. On parlait tout à l'heure des bonnes relations entre la Corée du Sud et la Chine. C'est à la fois vrai, il y a un jeu des deux côtés de vouloir créer cette contre-alliance face à l'ennemi, entre guillemets, japonais, mais il faut bien voir que les choses ne sont pas si simples non plus entre la Corée du Sud et la Chine. Il y a également des tensions sur des différents territoriaux en mer de Chine orientale cette fois, mais c'est vrai aussi que la Corée du Sud est très présente économiquement en Chine et que la Chine est un partenaire commercial majeur pour Séoul comme pour Tokyo. Donc, c'est un élément effectivement essentiel. Alors, ce qu'on peut noter aussi sur l'atténuation des tensions entre la Chine et le Japon, qui était particulièrement nette lors du dernier dialogue Shangri-La sur la sécurité qui a eu lieu à Singapour il y a quelques semaines, effectivement, les Chinois étaient très indulgents pour le Japon et n'avaient pratiquement, et c'était essentiellement un discours de la main tendue à Tokyo. Il faut bien voir que Tokyo a noté cette évolution, mais note aussi le fait que la Chine est assez coutumière du fait de soit apaiser les relations, soit au contraire les retendre en fonction de ses priorités stratégiques. Aujourd'hui, les priorités stratégiques de la Chine se sont refocalisées sur la mer de Chine méridionale où les tensions sont très fortes. Par ailleurs, Pékin ne souhaite pas évidemment aboutir à un conflit ouvert, qui serait totalement dommageable pour le régime, avec Washington. Et il faut noter que les États-Unis ont réaffirmé avec beaucoup de force ces derniers mois, et par la bouche de Barack Obama et d'autres également dans l'administration, que par exemple la question des Senkaku était bien couverte par le traité de sécurité entre le Japon et les États-Unis. Donc Pékin est extrêmement pragmatique et réaliste, pousse tant que ça paraît possible, mais est tout à fait prêt à apaiser les choses s'ils ont l'impression que les conséquences seraient trop dommageables pour les intérêts chinois.
Commentaire, Céline Pajon, sur ce que Valérie Niquet vient de dire.
Oui, je rejoins tout à fait l'analyse de Valérie Niquet. Je crois que les Chinois ont essayé de pousser au maximum leur avantage sur la question des îlots Senkaku Diaoyu, et que ils ont vu qu'en face, l'alliance nippo-américaine résistait très bien. Les dernières orientations de coopération de défense entre le Japon et les États-Unis non seulement réaffirme un engagement politique fort des États-Unis, mais concrétise vraiment la coopération en mer de Chine de l'Est face à la Chine. De plus, Shinzo Abe reste au pouvoir. Le parti de Shinzo Abe, en fait, a remporté des élections anticipées qu'il avait convoquées en décembre dernier, ce qui signifie qu'il va rester au pouvoir jusqu'en 2018. Donc, c'est-à-dire que c'est c'est un acteur avec qui compter. Donc je crois qu'effectivement les Chinois montrent une face pragmatique et là essayent de reconstruire des relations assez cordiales.
Alors on doutait, et peut-être c'est ce sur quoi nous redémarrons la deuxième partie de l'émission, doutait un peu de la relation entre Washington et Tokyo. Il est vrai que la récente visite de Shinzo Abe aux États-Unis a peut-être permis aux uns et aux autres de retrouver un terrain de confiance qui s'était peut-être un tout petit peu émoussé. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Valérie Niquet et Céline Pajon, dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique à l'approche du 70e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous retrouvons nos invités sur les relations entre la Chine, le Japon et la Corée. Valérie Niquet par téléphone, maître de conférence, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et Céline Pajon, spécialiste du Japon, chercheur au Centre Asie de l'IFRI et co-auteur avec Alice Ekman de Nationalisme en Chine et au Japon, implication pour la relation bilatérale, aux publications de l'IFRI. Céline Pajon, on évoquait en fin de première partie la récente visite du Premier ministre japonais aux États-Unis. Des doutes, en tout cas, sur l'intensité des liens entre Washington et Tokyo étaient émis dans cette perspective de visite. Est-ce que la visite de Shinzo Abe et son discours devant le Congrès américain a permis de rassurer l'allié américain et de remettre un certain nombre de choses sur la table entre les deux pays?
On ne peut pas parler vraiment de doutes forts concernant la relation en fait entre les deux alliés. C'est vrai que ces dernières années, depuis septembre 2012, l'agressivité, on va dire, de la Chine autour des îlots contestés en mer de Chine orientale constituait vraiment un test pour l'alliance. Et dans ce cadre-là, eh bien, il y a eu des inquiétudes, et du côté japonais et du côté américain. Du côté japonais, des inquiétudes à plusieurs reprises concernant le soutien indéfectible des Américains face à cette menace chinoise. En fait, est-ce que les forces américaines étaient prêtes à aller en guerre pour quelques îlots perdus en mer de Chine? Donc ça, c'était un point d'inquiétude assez fort côté japonais. Et puis côté américain, des inquiétudes concernant la personnalité de Shinzo Abe, ses convictions nationalistes et ses déclarations à plusieurs reprises provocatrices qui semblaient un petit peu jeter de l'huile sur le feu pour les relations entre le Japon et la Chine. Et bien entendu, il ne s'agissait pas pour les États-Unis d'entrer en guerre. Donc les États-Unis étaient extrêmement réticents. Et c'est vrai que cette visite a permis de remettre un petit peu les choses à plat. Il y a eu le discours très important de Shinzo Abe devant les deux chambres du Congrès. Shinzo Abe était reçu vraiment déploiement de faste, tapis rouge, etc., vont montrer qu'effectivement, le Japon restait un allié, l'allié majeur, en fait, des États-Unis dans la région. D'ailleurs, Obama a bien expliqué que finalement, sans le Japon, le pivot américain vers l'Asie serait extrêmement difficile, voire impossible. Donc, pour les États-Unis, aujourd'hui, cette relation avec le Japon est absolument essentielle. Par ailleurs, il y a eu l'annonce des nouvelles orientations de coopération de défense qui ont bien concrétisé de manière opérationnelle, militaire, cette coopération renforcée entre les deux pays en mer de Chine, et même commencé un petit peu à annoncer une coopération en dehors de la région immédiate autour du Japon.
Ça, c'est essentiel, finalement.
Et ailleurs.
Oui, ça, c'est assez essentiel dans cette alliance entre les États-Unis et le Japon, qu'elle ne soit plus cette alliance limitée par la géographie, elle est désormais globale. C'est un vrai changement, Céline Pajon.
Oui, alors elle avait commencé à être dans un certain sens globale. On peut se rappeler que le Japon avait envoyé ses forces d'autodéfense dans l'océan Indien en appui à l'opération en Afghanistan à partir de 2001. Il y avait des opérations de ravitaillement des navires des forces de la coalition. Et puis à partir de 2003, les forces japonaises étaient intervenues simplement pour une mission humanitaire et logistique en Irak, mais dans le cadre de la reconstruction de l'Irak, entre 2003 et 2006. Donc avec toutes les limitations liées au contexte très particulier au Japon, avec la constitution pacifiste, etc. Donc là, c'est vrai que Shinzo Abe cherche à accélérer un petit peu la normalisation militaire du Japon, d'une part en faisant passer des réformes. Il y a tout un tas de paquets de réformes qui sont en train d'être discutées en ce moment au Parlement japonais. D'ailleurs, le débat est assez houleux puisqu'il y a une opposition politique et une opposition de l'opinion publique qui s'avère assez importante. Mais il essaye de faire passer un paquet de réformes qui va permettre aux forces japonaises de participer à des opérations sous mandat onusien, mais au-delà, dans le cadre d'une opération de coalition internationale menée par les États-Unis dans le monde entier. Et puis d'aller protéger son allié américain en cas d'attaque, c'est ce qu'on appelle la légitime défense collective.
Alors la presse, Valérie Niquet, je me tourne vers vous, qualifie ce changement du Japon et de cette extension finalement de l'alliance, extension géographique de l'alliance avec les États-Unis, de sortie d'une certaine somnolence pacifique en ce qui concerne le Japon. Est-ce que les termes sont bien choisis ?
Alors, ce qui est vrai, c'est que pendant des années, et notamment dans les années 80, ça remonte assez longtemps, mais on a beaucoup accusé le Japon, et notamment aux États-Unis, de bénéficier en quelque sorte, sans faire grand-chose, du soutien et de la défense offerte par les États-Unis, sans faire aucun effort. Et on voit bien que les évolutions auxquelles consent Shinzo Abe aujourd'hui, bien sûr, répondent sans doute à une volonté personnelle, l'idée que le Japon doit redevenir une puissance normale, y compris en termes militaires, dans des limites qui restent encore très très importantes. Mais l'autre élément, c'est qu'il fallait absolument donner des gages aux États-Unis pour leur montrer que les Japon étaient prêts à s'engager à leur côté et pas uniquement pour des sujets qui concernaient exclusivement le Japon. Pour que les États-Unis, pour que l'opinion publique américaine et le Congrès soient prêts à aller éventuellement mourir pour les Senkaku, il fallait en échange que le Japon exprime bien sa volonté de soutenir les États-Unis sur d'autres terrains. Je voulais juste ajouter un point brièvement. C'est d'autant plus important de réaffirmer cette alliance entre Tokyo et Washington, et ça je crois que les Américains en sont parfaitement conscients, que évidemment toute la stratégie de Pékin aujourd'hui est d'essayer au contraire d'enfoncer un coin entre le Japon et les États-Unis bien entendu, mais aussi les États-Unis et tous les autres États d'Asie, et tous les discours chinois qui sont publiés actuellement, et surtout en ce moment où il y a le dialogue stratégique entre Pékin et Washington, et de réaffirmer que il y a un intérêt commun très important entre les États-Unis et la Chine, et que les États-Unis ne doivent surtout pas s'engager dans des petites querelles locales, que l'Asie peut être gérée par les Asiatiques eux-mêmes, sous-entendu sans que les États-Unis ne se mêlent des questions de sécurité dans la région. Donc le discours de Pékin est en quelque sorte de dire aux États-Unis, ne vous mêlez pas de ces querelles qui n'ont aucune importance pour vous fondamentalement, nous ne remettrons pas en cause les intérêts américains économiques dans la région, mais surtout ne soutenez pas les revendications d'États comme le Japon, les Philippines ou le Vietnam. Donc c'est une vraie stratégie très affirmée de la Chine à l'égard de Washington, et c'est de ça dont le Japon avait évidemment très peur.
Alors, stratégie de la Chine affirmée vis-à-vis de Washington, on a le sentiment de tests permanents. Chacun se teste, Valérie Niquet, sur toute la région. J'avance un pion et je vois comment l'autre va réagir, etc. C'est un jeu qui perdure. Est-ce qu'il y a des risques de conflits, notamment en mer de Chine méridionale?
Je ne sais pas si chacun se teste. La Chine teste les autres essentiellement et les autres réagissent. On est plutôt dans cette logique-là. La Chine aimerait évidemment mettre sur le même plan ses actions et celles des Philippines ou celles du Japon éventuellement, mais on est plutôt dans un contexte où on a un État qui cherche à imposer, non pas tellement un contrôle physique, je pense, sur l'ensemble du territoire, y compris de la mer de Chine orientale, mais qui voudrait imposer la reconnaissance de son leadership en Asie. Et ça passe par justement des tests et voir si ces tests sont acceptés ou non. Pour le moment, ça n'est pas le cas par les partenaires de Pékin. Alors évidemment, les dérapages sont toujours possibles, mais je pense resterait assez limité pour une raison très simple, c'est que justement la stratégie chinoise est fondée sur la multiplication des petites piqûres qui ne vont pas trop loin, en espérant que justement ça démontre progressivement que sans réaction de la part de ses partenaires, eh bien la Chine a réussi à avancer placer ses pions. Mais la Chine est aussi très consciente de la faiblesse de ses capacités militaires. Elle a énormément développé ses capacités militaires. C'est une puissance nucléaire, c'est une puissance avec laquelle il faut compter. Et face au Vietnam et aux Philippines, évidemment, elle est très supérieure. Mais la Chine sait également que s'il y avait un vrai conflit qui dégénérait avec le Japon, et encore plus, a fortiori, avec les États-Unis, eh bien, l'armée chinoise n'aurait que peu de chances de tenir, ce qui serait évidemment extrêmement dommageable pour la survie, qui est le cœur de l'objectif stratégique aujourd'hui en Chine, qui est la survie du régime chinois tel qu'il existe aujourd'hui. Donc on a toute une chaîne, un entraînement qui montre que finalement Pékin va continuer à tester pour tenter de, pour des raisons de politique interne essentiellement, d'affirmer sa puissance dans la région, son rôle central dans la région, mais elle n'ira sans doute pas trop loin au point d'entraîner une véritable réaction militaire de la part de Tokyo ou de Washington.
Alors, Céline Pajon, je me tourne vers vous. Valérie Niquet évoquait la capacité militaire de la Chine. Est-ce que finalement, le Japon fait peu ou prou jeu égal avec Pékin sur le plan militaire ?
C'est difficile de comparer Pékin et Tokyo sur ce plan-là. Tokyo a des capacités beaucoup plus sophistiquées, anciennes. Les troupes sont extrêmement bien entraînées. Ils ont profité de l'expertise américaine en termes opérationnels, en termes technologiques et autres. Le Japon, aujourd'hui, la première puissance navale d'Asie, si on accepte la puissance américaine. Donc, je crois que non, il n'y a pas de jeu égal. Je crois que le Japon reste supérieur à la Chine en termes militaires aujourd'hui. Et Shinzo Abe cherche encore à renforcer ses capacités, notamment en termes de surveillance des mers de Chine, et cherche à répondre en fait à la stratégie de déni d'accès de la Chine, finalement en adoptant une stratégie un petit peu en miroir. La stratégie japonaise aujourd'hui, c'est une stratégie finalement de déni d'accès, si on peut dire, des forces chinoises pour empêcher les forces chinoises de se projeter dans le Pacifique et finalement d'empêcher les forces américaines d'intervenir en cas de crise dans la région.
Alors j'évoquais tout à l'heure cette interrogation en ce qui concerne un sommet au plus haut niveau entre les dirigeants chinois, japonais et coréens. Je voudrais revenir quelques instants peut-être sur ce qu'on ressent en tout cas vu d'Europe. C'est une position particulièrement difficile pour la Corée qui d'une certaine manière doit concilier bien les exigences stratégiques de son allié américain et ses intérêts économiques avec la Chine qui est tout de même son premier partenaire commercial. Alors, on a vu Séoul adhérer à la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures mises en place par Pékin pour concurrencer le Fonds monétaire international et la Banque asiatique de développement. Et en même temps, elle doit affronter deux problèmes épineux, accepter le déploiement sur son territoire du système antimissile balistique américain qui, selon Pékin, pourrait compromettre la paix et la stabilité dans la région et répondre aux exigences de Washington d'améliorer ses relations avec le Japon afin de ne pas compromettre la stratégie américaine. J'en reviens à ma phrase introductive, une position particulièrement délicate pour la Corée, Valérie Niquet.
Oui, alors effectivement, mais ceci dit, je ne suis pas certaine que les intérêts stratégiques de la Corée du Sud soient uniquement le résultat de pression américaine. Objectivement, la Corée du Sud a besoin de l'allié américain, et d'ailleurs, les autorités coréennes et même l'opinion publique en sont parfaitement conscientes. La meilleure des preuves, c'est que lorsqu'il y a eu cette fameuse visite du président chinois en Corée du Sud, évidemment, il y a eu toute une série de déclarations, et notamment tentait de montrer les intérêts communs économiques et même stratégiques face au Japon entre la Corée du Sud et la Chine. Mais la Corée du Sud s'est bien gardée d'aller jusqu'où souhaitait justement Pékin, qui était de remettre en question le déploiement du système antimissile sur son territoire. Donc les Coréens du Sud jouent de ce rapprochement avec Pékin. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension, y compris au niveau économique, où les producteurs sud-coréens s'inquiètent aussi des importations massives de la part de la Chine. Mais ça ne va pas jusqu'à une rupture totale qui mettrait en danger le système d'alliance auquel la Corée du Sud appartient toujours.
Dans un récent rapport commandité par le ministère des Affaires étrangères japonais, des experts en relations internationales estiment que si les États-Unis se désengagent de la région dans une vingtaine d'années, la Chine dominera l'Asie-Pacifique. Je ne sais pas si, par rapport à ce que Céline Pajon disait quant aux capacités militaires japonaises, mais là, on se projette dans 20 ans, ce sera effectivement une réalité. Et dans cette hypothèse, la Corée du Sud se rapprocherait de la Chine et le Japon risquerait de se trouver isolé. Est-ce que c'est une vision futuriste qui repose, Valérie Niquet, sur quelque chose de fondé?
Bon, c'est une vision très alarmiste qui a sans doute pour principal objet de réveiller, entre guillemets, ceux qui au Japon considèrent que la défense doit rester quelque chose de très mineur. Et c'est une vision par ailleurs qui ne prend pas en compte un élément essentiel qui est l'avenir de la Chine elle-même. Encore une fois, je pense que la clé des évolutions en Asie à 20 ans, d'abord toutes les possibilités sont ouvertes, mais tracer une ligne prévoyant la progression de la montée en puissance de la Chine et la disparition des États-Unis me paraît très très hasardeux. Je pense au contraire qu'on va sans doute assister à des phénomènes de transition politique en Chine d'une manière ou d'une autre et que c'est autour de ce phénomène-là que les choses pourront évoluer, y compris stratégiquement en Asie, comme elles ont évolué d'ailleurs en Europe, et qu'on pourrait d'ailleurs imaginer d'autres choses qui seraient un rapprochement entre une Chine normalisée, un Japon et une Corée, où là effectivement on verrait l'émergence d'un pôle asiatique fort qui pourrait s'affirmer face aux États-Unis d'un côté et face à l'Europe de l'autre.
Et quand vous évoquez la Corée, Valérie Niquet, évidemment, la question de la péninsule coréenne se pose. Elle est aujourd'hui dans une impasse stratégique. La question qui se pose est de savoir comment il pourra mettre mis un terme finalement à cette impasse et là aussi beaucoup d'incertitudes.
Mais oui, effectivement, et là encore, la Corée du Nord survit très largement parce que, en dépit des déclarations, elle continue, même si les Chinois sont de plus en plus prudents et inquiets de l'évolution du régime nord-coréen autour du nouveau dirigeant, Pékin n'est toujours pas prêt à laisser tomber la Corée du Nord. Il ne croit pas non plus à une Corée réunifiée qui serait absolument pro-Pékin et qui n'ouvrirait pas la porte à un renforcement de la présence occidentale américaine dans la péninsule. Donc là aussi, le problème est lié aussi à l'évolution du système politique en Chine. Et tant que Pékin soutiendra la Corée du Nord, on peut imaginer que le régime parviendra, tant bien que mal, à survivre et à constituer cette épine de plus en plus préoccupante, d'ailleurs, puisque les Coréens du Nord poursuivent leur développement en matière balistique, notamment, et que c'est une vraie menace pour les pays de la région.
En tout cas, d'Asie, il va beaucoup être question cet été, et j'en reviens au point de départ de cette émission avec donc les célébrations du 70e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Avec Céline Pajon, je me tourne vers vous, un grand discours donc attendu de Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, on en a parlé. Abe qui est dépeint comme un faucon nationaliste, pour mémoire il est arrivé donc en 2012 au gouvernement japonais. Qu'est-ce que l'on peut dire? On sent finalement qu'il y a une certaine polarisation autour de cette question des cérémonies et de ce passé japonais et de la façon dont l'histoire est aujourd'hui exposée. Céline Pajon.
Il est vrai que Shinzo Abe apparaît aujourd'hui comme la figure tutélaire d'un nationalisme qui revient, d'un nationalisme essentiellement politique, qui n'est pas forcément soutenu par l'opinion publique. Lorsqu'on regarde les sondages, on peut voir que l'opinion publique reste en grande majorité extrêmement pacifiste, ne soutient pas notamment les dernières réformes de défense du gouvernement Abe, et s'inscrit en faux contre une vision ouvertement révisionniste de l'histoire du Japon. Donc c'est vrai que l'opinion publique agit plutôt comme un frein par rapport au dessein un peu nationaliste du Premier ministre Abe. Au-delà du Japon, je pense que ce qui est important également de souligner, c'est qu'aujourd'hui on voit un véritable fossé se creuser en Asie, parce que finalement au Japon, le projet de Shinzo Abe Abe, c'est de tourner la page de l'après-guerre où le Japon a fait profil bas. Il veut revenir sur cette période-là, il veut faire du Japon un pays normal au niveau diplomatique et également militaire. Et en fait, au même moment, on voit les voisins du Japon, et notamment la Chine, mais également la Corée, qui rouvrent le grand livre de l'histoire et qui, là, ont aujourd'hui les moyens, les capacités de faire valoir leur point de vue et veulent revenir sur les différents épisodes extrêmement douloureux qu'ils ont vécu avec le Japon.
Ce sera intéressant, bien sûr, pour nous de suivre cette question des commémorations, et je pense qu'on aura l'occasion de vous avoir à nouveau dans Géopolitique une fois ces cérémonies passées pour reparler de ces questions. Géopolitique, merci à nos invités. Valérie Niquet, maître de recherche et responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique, et Céline Pajon, spécialiste du Japon, chercheur au Centre Asie de l'IFRI et co-auteur avec Alice Ekman de Nationalisme en Chine et au Japon, implication pour la relation bilatérale, une publication de l'IFRI. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte, avec la contribution de la documentation. À très bientôt.